VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, le calme règne à Bouaké, épicentre des mutineries de soldats ivoiriens en 2017, après des tirs dans la nuit de jeudi à vendredi dans un camp militaire de cette ville du centre du pays. Les coups de feu ont été entendus par des habitants qui ont dit à l'AFP qu'il s'agissait de tirs dus à un différend entre membres des forces de sécurité. Une brève querelle entre policiers et des éléments du CCDO, le centre de commandement de décision des opérations. Pour sa part, un soldat du 3e bataillon militaire déployé sur place a déclaré à l'AFP, je cite, « Nos militaires n'envisageons aucun soulèvement, il n'y a aucune raison de le faire. Il n'y a absolument rien de grave, nous demandons à notre tutelle de mettre tous les corps en uniforme sur le même pied d'égalité pour éviter des frustrations. » Fin de citation. Rappelons qu'à l'occasion de la cérémonie des vœux à la présidence ivoirienne hier, le général Sékou Touré, chef d'état-major des armées ivoiriennes, a présenté ses excuses à la nation pour les mutineries qui ont ébranlé le pays en 2017 et promis qu'en 2018, l'armée remplira son devoir. Afrique de l'Ouest toujours, au Niger, le gouvernement a décidé de procéder à un recensement biométrique de plus de 250 000 personnes qui ont fui les atrocités du groupe djihadiste Boko Haram et vivent depuis 3 ans dans la région de Difa, dans l'extrême sud-est du pays. Cette démarche vise à maîtriser leur nombre pour faciliter une intervention plus efficace des structures humanitaires en leur faveur. L'opération a démarré et se poursuit, comme a pu le constater notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, qui était récemment à Difa.
Sur le site de Assaga, un des 3 centres hors camp sur lesquels se déroule l'opération depuis novembre 2017, l'affluence est grande. Avec ses 3 enfants, Malam Chefou, originaire d'un village du Nigeria, a pu se faire un chemin pour pouvoir accéder au premier stand où son statut de réfugié, de retourné ou de déplacé est déterminé à la suite d'un long interrogatoire. Il passe ensuite au stand protection tenu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Nafissa Moussa, du bureau HCR d'IFA.
Ce qu'on fait à notre niveau, c'est la protection donc des personnes à besoins spécifiques. Et prioriser les gens qui sont des handicapés, les vieillards, les femmes seules.
Madame Chefou passera ensuite dans 8 autres stands avant d'être en possession de ses documents important pour ses chefs de famille.
Avec la carte, je peux voyager d'un état à l'autre sans problème. Nous sommes vraiment contents. Que Dieu récompense les initiateurs.
Cette opération de recensement est supervisée par la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié, Amma Suleiman El Hadj et administrateur adjoint au niveau de cette commission.
Quand les réfugiés viennent ici, il ne va sortir qu'avec ses documents complets, son attestation, sa carte d'identité des réfugiés, tout. L'objectif, c'est d'abord maîtriser les chiffres. Parce que depuis un certain temps, il y avait beaucoup de difficultés relatives aux chiffres. Donc après cette opération, ce problème ne va plus se poser.
Au-delà de la maîtrise du nombre de personnes en mouvement due à la situation sécuritaire, l'opération vise également un meilleur suivi de l'aide à apporter à ces populations vulnérables, selon le directeur régional de l'état civil des migrations et des réfugiés de Difa, Oumarou Boubacar.
Avec le recensement biométrique, nous connaissons qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites et où êtes-vous. Ce qui va nous permettre de bien maîtriser et ces populations-là, et même pour, y compris pour l'assistance, parce que même s'ils se déplacent d'un site à un autre, on peut les référer à travers ce recensement biométrique. Donc il n'y aura plus de fraudes qui sont habituées à ça.
Aide et assistance, c'est justement ce qu'attendent la plupart des chefs de ménage venus pour se faire enregistrer à l'occasion de cette opération.
J'ai reçu ma carte, c'est bien, mais je veux plus parce que nous souffrons ici. On a besoin de nourriture et de faire des petites activités génératrices de revenus.
Selon la direction régionale de l'état civil de Difa, à la mi-décembre 2017, plus de 37 000 personnes ont été recensées à la biométrie. Abdulrazak Idrissa, de retour de Difa pour VOA Afrique.
Au Cameroun, libération jeudi soir de Moussa Ramat, l'ex-maire de Fotokol, ville de l'extrême nord du pays, qui avait été interpellé en septembre 2014 pour complicité avec le groupe djihadiste nigérian Boko Haram et finalement acquitté le 28 décembre dernier. L'ancien maire devait être libéré après 3 ans de détention, mais son avocat avait dénoncé mardi à l'AFP le maintien en détention de son client plusieurs jours après son acquittement. Moussa Ramat était accusé d'avoir fourni des armes à Boko Haram et aidé à la commercialisation du produit des pillages des combattants du groupe djihadiste qui attaquent fréquemment des localités du nord du Cameroun.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Troubles en Guinée équatoriale. Les autorités équato-guinéennes mènent des recherches intensives partout dans le pays pour traquer les mercenaires à l'origine du coup d'État que Malabo a annoncé mercredi avoir déjoué. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP ce vendredi un haut responsable du régime du président Teodoro Obiang Nguema qui a tenu à garder l'anonymat. Les recherches sont en cours non seulement dans la zone Béine et autres forêts environnantes, mais aussi dans les localités où les assaillants se seraient infiltrés, notamment à Bata, Malabo et Mongomo, a ajouté ce haut responsable qui fait état d'une relative accalmie dans la situation. Ebi Béine, ville située au carrefour des 3 frontières entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, a été le théâtre mercredi d'affrontements entre l'armée équato-guinéenne et des éléments infiltrés, faisant 1 mort parmi ces derniers selon Malabo. Les frontières de la Guinée équatoriale ont été fermées à cet endroit et des renforts y ont été déployés par les autorités équato-guinéennes. Par ailleurs, 60 de commerçants tchadiens ont été interpellés ces derniers jours en Guinée équatoriale après l'annonce par le gouvernement du coup d'État déjoué. Le point avec Abdourahman Dia.
55 commerçants étaient détenus hier à Malabo, 9 à Mongomo et d'autres à Ebéine. L'information a été donnée par l'ambassadeur du Tchad en Guinée équatoriale, Paul Nahari Ngarianan. Selon une source au ministère des Affaires étrangères tchadien, certains ont été libérés après une audience du ministre tchadien des Affaires étrangères, Mohamed Zen Sherif, avec le président Teodoro Obiang Nguema à Malabo. Le chef de la diplomatie tchadienne a déclaré que cette tentative de coup d'État est une menace sérieuse de déstabilisation qui concerne toute la sous-région d'Afrique centrale. Quelques heures plus tôt, la Guinée équatoriale avait accusé un groupe de mercenaires étrangers, en majorité des Tchadiens, mais aussi des Soudanais et des Centrafricains, à la solde de partis de l'opposition radicale, d'avoir voulu attaquer le chef de l'État le 24 décembre dernier. Ils ont été arrêtés le 27 décembre au Cameroun, selon des sources camerounaises. Selon l'AFP, un Tchadien, Mamad Kodobani, présenté comme le cerveau de l'opération, a été arrêté à Douala, au Cameroun, fin décembre.
Au Soudan du Sud, des affrontements entre l'armée gouvernementale et les forces rebelles ont fait plusieurs morts dans l'état de Yei River. Les dernières relations en date de l'accord de cessez-le-feu conclu il y a 2 semaines. Les précisions de Lionel Gaïma.
En début de semaine, les membres de la Troïka, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège, avaient adressé une sévère mise en garde aux chefs militaires de partis en conflit, les sommant de respecter l'accord de cessation des hostilités signé le 21 décembre à Addis Abeba par le gouvernement sud-soudanais et les groupes rebelles. Les affrontements de l'état de Yei River mettent aux prises les troupes gouvernementales et les rebelles, loyaux à l'ancien premier vice-président Riek Machar. Selon le porte-parole militaire sud-soudanais, le général Lou Rai, les combattants de Machar ont attaqué des positions de l'armée dans les villes de Morobo, Bazi et Yondu. 5 ont été tués, a-t-il précisé. Les rebelles, par la voix de leur porte-parole, le colonel Lam Gabriel, soutiennent avoir répondu à une offensive des soldats gouvernementaux à Yondu. 7 rebelles et soldats gouvernementaux ont péri dans ces combats, a indiqué le colonel Lam Gabriel. Les deux camps assurent malgré tout qu'ils ont décidé à honorer le cessez-le-feu et que tous les chefs militaires ont eu pour instruction d'arrêter les combats et de permettre la libre circulation des civils et de l'aide humanitaire.
Et pour terminer, violence en Iran. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce vendredi une réunion sur la situation en Iran à la demande des États-Unis. Cette réunion prévue à 20h temps universel, 15h heure locale aujourd'hui, fait l'objet de vives critiques de la part de la Russie, qui estime que les manifestations en Iran ne relèvent pas du Conseil de sécurité de l'ONU. Moscou n'exclut pas de demander un vote de procédure pour essayer de bloquer les débats. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.